rendez-vous du Mondial du bâtiment, le grand témoin, un entretien animé par Nathalie Croiset.
Bonjour à vous toutes et vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous du Mondial du bâtiment en direct depuis les studios de Bâti Radio. C'est déjà la 14e édition de ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, un événement, le Mondial du bâtiment qui aura lieu physiquement du 3 au 6 octobre prochain à la Porte de Versailles. Les organisateurs Aix-France, l'AFISB et Uniclimat continue plus que jamais de vous informer. C'est pourquoi Batimat, Idéo Bain et Interclimat vous proposent une émission tous les premiers vendredis du mois en live pour vous informer sur les actualités du secteur. Et on est ravis, puisqu'on commence à chaque fois par la séquence Grand Témoin, d'accueillir Gabrielle Légeret, bonjour, qui est donc la fondatrice de L'Or dans les Mains. Vous allez nous en dire un peu plus parce qu'en fait, vous valorisez tous les savoir-faire à travers la France. On va mieux comprendre aussi les enjeux, entre guillemets, de rural avec vous, et puis mieux comprendre tous ces métiers, et notamment ceux du bâtiment, qu'il faut aussi plus que jamais valoriser. Donc on est ravis de vous accueillir, et pour vous accueillir aussi Guillaume Loiseau, bonjour.
Bonjour.
Directeur du Mondial du bâtiment. Alors, on est le 3 juin, je crois que c'est une date un peu emblématique.
On est le 3 juin, Nathalie, il est 9h précisément, et donc dans 4 mois, jour pour jour, à la même heure, on ouvrira les portes du Mondial du bâtiment, donc des 3 salons Batimat, Interclimat, Idéo Bain, donc du 3 au 6 octobre à Paris, Porte de Versailles. Voilà, et c'est le compte à rebours est lancé. On est en ce moment même en pleine tournée de promotion à l'international. Je rentre d'un déplacement à Dakar cette semaine où j'ai rencontré tous les acteurs publics et privés du secteur du bâtiment et de la construction. Et donc, je vous annonce d'ores et déjà une forte mobilisation en fait des différents pays et des délégations internationales pour se rendre au Mondial du bâtiment avec comme seul objectif les solutions pour décarboner leur pays.
Voilà, donc on est vraiment dans ces questions-là et dans ces enjeux, on va dire qu'on décline depuis le début de ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. Donc je vais me tourner maintenant vers Gabrielle Légeret, donc ravie de vous accueillir, la fondatrice de L'Or dans les Mains. Ce que je disais, votre objectif, c'est de valoriser, de soutenir la transmission des savoir-faire qu'on peut dire en voie de disparition. Est-ce que vraiment, c'est un peu comme les espèces qu'on a en voie de disparition, il y a vraiment, on va dire, un peu des métiers en péril, vous pourriez dire?
Ils sont fragilisés dans tous les secteurs parce qu'on a supprimé beaucoup de formations et qu'on les a dévalorisées auprès des jeunes, et qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de savoir-faire, à la fois dans le milieu artisanal, mais aussi dans le milieu industriel, qui sont en pénurie de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de réindustrialisation, de relocalisation. Mais déjà, les entreprises qui, coûte que coûte, sont restées en France, font face à des difficultés pour recruter. Et c'est ça qui les fragilise et qui finalement menace leur pérennité. Et donc, il faut absolument, je pense, faire bouger les lignes pour permettre à la nouvelle génération, pour inspirer la nouvelle génération, d'aller de nouveau vers ces métiers-là.
Alors, ce qui est intéressant, c'est cette nouvelle génération, on en parle souvent, bon, on a vu de façon un peu emblématique ces étudiants d'Agritech qui ont un peu dénoncé aussi en disant nous, on ne veut pas rentrer dans certaines entreprises qui ne répondent pas finalement aux objectifs de lutte contre le changement climatique. Vous-même, vous êtes diplômé de Sciences Po, vous auriez pu vous dire, moi, je pars vers un super parcours, non pas que ce que vous faites en ce moment n'est pas un super parcours, mais vous vous êtes dit, moi je vais réfléchir, peut-être donner du sens aussi à ce que je fais, c'est ça?
Oui, je crois que ce genre de choses se font un peu de façon très, très évidente. Je crois que peut-être le fil rouge de ça, ça a été la prise de conscience assez tôt de la notion de fracture territoriale dont on parlait quand même assez peu il y a quelques années. Moi, j'ai grandi dans un village rural, et c'est vrai que je l'ai d'abord senti à l'adolescence par le fait que lorsqu'on habite loin d'une grande métropole, on a accès à moins d'informations, moins de mobilité, moins de rôle modèle auquel s'identifier pour choisir les études qu'on veut faire. Et ça, je l'ai aussi particulièrement vu quand je suis arrivée à l'âge de 18 ans faire mes études à Paris. Et je l'ai aussi vu dans le regard qu'on peut porter en fait sur les métiers manuels, sur le monde de l'artisanat, sur toutes ces difficultés que rencontre le paysage finalement de ceux qui font des choses avec les mains. Et finalement, moi, j'ai été entourée de jeunes à Sciences Po qui ont envie de faire de la politique et donc d'influer sur des politiques publiques ou aller dans le privé et donc d'influer sur les outils de production, et qui n'avaient pas conscience de cette réalité-là. Et c'est vraiment dangereux à la fois pour notre cohésion nationale et pour le fait d'être devenu presque une société de service. a des conséquences dramatiques pour nos territoires.
Voilà, et donc vous avez commencé à réfléchir à un parcours, à contribuer finalement à aider ces jeunes aussi qui parfois ou sont dans des domaines ou comme vous le disiez dans des campagnes où c'est pas toujours facile de trouver aussi un métier. Et vous avez commencé par une première association, c'est ça, Chemin d'Avenir, hein, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. J'ai participé à la création de Chemin d'Avenir aux côtés de Salomé Berlioux, sa fondatrice, qui a pour mission de permettre aux jeunes des zones rurales d'avoir autant de chances de réaliser leur potentiel que ceux des grandes métropoles.
Et alors ça se passait comment concrètement pour qu'on puisse mieux comprendre ?
Alors en fait chaque jeune était mis en relation avec un parrain ou une marraine dans n'importe quel autre territoire que le sien pour l'aider à se révéler, pour lever un à un les obstacles qui brimaient un petit peu son parcours pour vraiment lui permettre de trouver sa voie, qu'il ait envie de rester sur son territoire de partir pour mieux revenir. Mmh. Et ça dans tous les domaines, qu'il ait envie de reprendre un atelier de ferronnerie ou de devenir diplomate.
Voilà, donc alors il y a cette association, mais vous avez au début, hein, c'est comme dans tout parcours, on va dire, professionnel, vous avez quand même travaillé, c'est ça, à l'ambassade de France à New York, c'est ça? Vous avez été dans une agence de conseil?
Oui, ouais. Bah, tout ça c'était pendant mes études, donc ouais, la création de Chemin d'Avenir c'était en 2016, donc j'étais pas encore en master. Et oui, c'est vrai que lorsqu'on entre à Sciences Po, on se dit qu'on a envie de devenir haut fonctionnaire et que tout ça fait rêver. Et puis finalement, mon expérience sur Chemin d'Avenir m'a montré que l'entrepreneuriat social me plaisait beaucoup. Je trouve qu'on a une action de terrain et on voit les résultats très tôt et c'est très agréable. Et finalement, c'est une façon aussi de faire du politique en agissant sur le terrain.
La politique, littéralement en grec, hein, c'est la vie de la cité, hein, si on veut mes vieilles études de latin et de grec qui remontent. Mais voilà, c'est vraiment agir pour la vie de la cité, finalement.
Oui.
Non, si on veut revenir aux origines, c'est peut-être pas plus mal de temps en temps de le rappeler.
Voilà, et donc j'ai eu quelques expériences en ambassade et en cabinet ministériel et dans une agence de conseil. Et puis finalement, il s'est assez vite avéré que ce que j'avais envie, c'était pas de ça.
C'était pas de ça. Et ce dont vous avez envie et ce que vous avez créé, c'est de l'or dans les mains. C'est ce qu'on disait finalement en introduction, parce qu'on est arrivé progressivement à comprendre aussi votre parcours, à mieux vous connaître. Alors, c'est parti d'où cette idée et une très jolie formule de l'or dans les mains.
Bah, d'un constat qui est, d'ici 10 ans, c'est 300 000 entreprises artisanales qui vont être à reprendre et qui font face à des vrais enjeux de transmission et qui sont extrêmement, extrêmement fragilisés. Le fait aussi, on a tellement pris l'habitude de consommer mal, à bas coût, et d'avoir finalement déconnecté sa notion de je consomme et je réfléchis à d'où vient mon produit. On a donc perdu beaucoup de formation. Ça a eu des conséquences assez désastreuses dans les territoires parce que finalement, ça a été aussi accompagné par la désindustrialisation parce qu'on pense évidemment aux petits ateliers d'artisans, mais il y a beaucoup de manufactures, beaucoup d'entreprises artisanales qui finalement sont aussi parties. Et au sein de ces entreprises, on avait beaucoup de savoir-faire. Et finalement, toute cette période de désindustrialisation, elle a fait perdre un tiers d'emplois au territoire avec du chômage en masse.
Et d'où le fait qu'il y a eu un regroupement dans les métropoles, finalement, aussi pour chercher du travail, quoi.
Oui, il y a eu beaucoup de gens aussi qui sont restés dans les campagnes, dans les zones rurales, et qui ont finalement complètement perdu leur sentiment d'appartenance, leur sentiment de fierté, leur identité, qui était soit ouvrière, soit artisanale.
Alors donc, vous avez créé De l'or dans les mains, qui est à la base une association. Qu'est-ce que vous proposez de la même façon pour expliquer par rapport au départ à Chemin d'Avenir ?
Alors, c'est une association qui a pour mission de valoriser et soutenir la transmission des savoir-faire auprès des jeunes et de changer le narratif autour des métiers manuels. Donc concrètement, comment est-ce qu'on agit nos actions s'articulent autour de deux volets. Le premier, c'est de promouvoir les savoir-faire à travers un podcast.
Voilà.
Donc chaque semaine,
vous faites aussi de la radio.
Je fais aussi de la radio.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous faites de la radio. Et je parlais à une jeune génération où souvent on nous parle de YouTube, des TikTok, des Reels, etc. Il y a un retour à la radio et à l'envie d'écouter aussi ce qu'on raconte, hein, de raconter une histoire.
Oui, bah nous on a choisi le podcast parce qu'on croit beaucoup au pouvoir de l'audio, au fait de susciter l'imagination. Et puis on s'adresse à des populations très jeunes qui sont quand même déjà beaucoup trop sur les écrans pour qu'on leur impose encore des images. Et puis ce qui est intéressant aussi dans la radio, c'est que finalement on suggère mais c'est aux enfants eux-mêmes de se créer des images et ça va beaucoup plus les marquer. Donc ça, c'est notre premier volet, un podcast. Donc chaque semaine, on se rend chez un artisan ou dans une entreprise artisanale pour donner la parole à ces hommes et ces femmes qui vont nous raconter leur histoire, leurs gestes, leur matière. Et vraiment, l'idée, c'est d'incarner une nouvelle génération d'entrepreneurs du savoir-faire pour inspirer les jeunes. Mmh. Et notre deuxième volet, ce sont des actions dans les établissements scolaires. Donc, on se rend avec deux artisans dans une classe qui, en amont, aura écouté les deux podcasts avec son enseignant ou son enseignante. Et on va leur faire faire un objet. Et on va leur faire faire un podcast.
D'accord, donc là, vous vous adressez vraiment aux plus jeunes, hein, c'est ça? Vous allez où, dans quel niveau? Alors, primaire?
Aujourd'hui, on s'adresse au CM2.
CM2, oui.
Avec comme objectif de vraiment construire un parcours sur plusieurs années, intégré, enfin, dans l'idéal, intégré au cursus scolaire, avec plusieurs temps forts. Je pense qu'une action ponctuelle en faisant venir les artisans dans les écoles, c'est très bien, mais c'est peut-être pas ça qui va vraiment faire bouger les lignes. Et je pense que l'éducation nationale a une grande responsabilité là-dedans, c'est-à-dire qu'il faut absolument réintégrer le manuel dans les cours, montrer aussi.
Mais dire
à
ça
quel
a été
point...
dévalorisé finalement. On a voulu pousser toutes les générations là vers le bac
voilà,
finalement.
On s'est fixé un objectif de 80% de réussite d'une classe d'âge au baccalauréat et on a voulu devenir une société de service avec des conséquences aussi dramatiques sur l'environnement parce que finalement on a juste déplacé nos industries. Et on a perdu vraiment ce
Et puis
lien.
Un artisan, c'est un service aussi, quelque part. C'est un service manuel, mais c'est une forme de service.
Absolument.
Donc ça, c'est vraiment ce que vous voulez valoriser. Est-ce que, après, on va parler évidemment du bâtiment en particulier, puisque ça nous concerne ici dans le rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Est-ce que dans tous ces podcasts que vous avez faits, vous avez peut-être un témoignage, vous, qui vous a marqué en particulier?
Mais tous en sont assez poignants. Je pense notamment... Alors, on a fait un tour de France des manufactures artisanales grâce au soutien de Terrifice, qui a un fonds de dotation qui soutient des actions d'intérêt général autour des savoir-faire. Et là, c'était assez formidable de voir ce modèle d'entreprise artisanale qui est la manufacture, qui existe souvent depuis 100, 200, 300 ans. Elles ont vraiment traversé un désert ces 10, 20 dernières années. Il y en a qui ont disparu, il y en a qui ont réussi à reprendre. Et là, tout de suite, je pense à Pierre Schmitt, qui sera notre 10e épisode, qui sort la semaine prochaine, et qui, donc, en fait, a repris des industries textiles dans les Vosges, qui avaient complètement disparu. Il s'est vraiment battu. Et il le dit, d'ailleurs, dans notre podcast, il dit « J'ai l'impression d'être en guerre contre mon pays », tellement c'est difficile, en fait, finalement, de reprendre une industrie textile. Il essaye de réhabiliter la filière du lin, parce que c'est un tissu... En France, on produit 80% de la production mondiale du lin, mais on ne sait plus la transformer. Donc on l'envoie en Chine et on la
récupère. C'est quand même une aberration.
Voilà, donc
c'est comme du bois que viennent couper certains pays asiatiques. Ils les ramènent, ils les transforment et ils nous le revendent après. On a des aberrations.
Et donc, il essaye vraiment de recréer une filature. Ce n'est pas la seule. Et en fait, il a récupéré des machines qui sont d'une qualité exquise. Mais en fait, il n'a trouvé personne qui savait les utiliser. Et du coup, il a dû faire appel à des retraités.
Ah oui.
Et là, il me dit, mais en fait, on est en train de reconsolider une filière, mais je ne sais pas où je vais trouver les gens pour y travailler.
Ouais, c'est quand
je
même
propose une solution pérenne. Mais je n'ai pas les ressources pour.
Ouais, surtout que c'est emblématique parce que le textile est en train un petit peu de redémarrer parce qu'il y a une volonté de la part de plusieurs acteurs de faire redémarrer du textile en France. On dit souvent qu'il faut relocaliser. Je pense qu'on l'a souvent aussi malheureusement découvert avec cette crise qu'on traverse. Donc c'est vrai que c'est un enjeu qui est quand même fort. Hein. Et alors dans le monde du bâtiment, parce que vous aussi vous êtes proche, on va dire, je crois que vous avez monté un groupe, c'est ça, avec des acteurs du bâtiment, c'est ça?
Non, mais on travaille avec pas mal de groupes. En ce moment, on est en train notamment de travailler avec Gazzola, qui est un groupe qui a plusieurs entreprises dans le monde du bâtiment. Et c'est vrai que le constat est assez unanime, c'est que les métiers du bâtiment souffrent un peu du fait de ne pas tous être très sexy. Et parce qu'on parle beaucoup des métiers d'art qui sont très beaux, mais c'est vrai que l'électricien, le plombier ou le plaquiste, eh bien on en parle moins parce que ça fait moins rêver. Et je pense qu'il faut vraiment recréer une désirabilité parce que ces métiers demandent autant de techniques, d'exigences qu'une doreuse à la feuille. Et ça, il faut vraiment le changer. Après, ils rencontrent aussi un tas de difficultés, notamment en matière de recrutement, parce que c'est encore des métiers qu'on a dévalorisés. Je pense qu'ils ont...
Ou certains arrivent dans ces métiers-là parce qu'on va dire, quelque part, ils n'ont pas pu faire autre chose et qu'on leur a dit, va là-dedans.
Oui, mais d'ailleurs, quand on parle d'orientation des jeunes qui... alors, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas académiques, c'est juste qu'ils ne répondent pas à la forme d'intelligence qui est exigée aujourd'hui par le système scolaire, alors que je trouve que travailler avec ses mains est une autre forme d'intelligence qui mérite pleinement d'être autant valorisée.
Et tout le monde n'a pas ce talent-là, il faut bien le dire aussi.
Oui, vraiment. Et donc, en revanche, je pense que le bâtiment a une responsabilité en matière environnementale. Et les jeunes, la jeune génération est très exigeante vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut changer. Après, là, je parle... Enfin, moi, je ne connais pas du tout les grands groupes du bâtiment. Je vous parle d'entreprises artisanales.
Oui, bien sûr. Qui représentent aussi une grande majorité de ce secteur-là,
absolument.
Il faut bien le dire.
Et qui ont aussi des difficultés pour ressourcer les bons matériaux.
Bien sûr.
Parce qu'ils ont été encouragés à construire vite avec des mauvais matériaux.
Mais peut-être que justement, avec la transformation, l'arrivée des nouveaux matériaux, justement, dont on a déjà parlé dans cette émission, le bois, la paille, le chanvre aussi, qui vont réclamer aussi peut-être une technicité aussi de travailler autrement.
Ça veut dire
autrement.
Que derrière, il faut que les consommateurs acceptent aussi
exactement.
De payer le prix. Je pense qu'il y a vraiment, deux acteurs, des décideurs qui doivent s'y plier. Et après, je dirais aussi que beaucoup d'artisans du bâtiment ont le sentiment d'avoir perdu la place de leur créativité avec l'arrivée des machines. Je pense par exemple à des tailleurs de pierre qui se retrouvent dans des boîtes d'une vingtaine, une trentaine de personnes et qui finalement font beaucoup de ravalement de façade derrière une machine alors qu'ils ont perdu cette place. Et je crois fondamentalement que si on veut donner aux jeunes l'envie d'aller vers ces métiers-là, il faut vraiment pas négliger ce côté de la créativité.
C'est important. Alors dans les sujets, on va en parler d'ailleurs dans le grand dossier, il y a un autre aspect dont on parle souvent, on parle de transition écologique, vous l'avez abordé, de transition numérique. On a l'impression que le numérique, ça va nous sauver de tout. C'est quoi votre point de vue sur le numérique, Gabrielle Légeret?
Je pense qu'il ne faut pas mettre le numérique partout. D'abord, il y a une question de la temporalité. Et je trouve que la temporalité du numérique est vraiment à contre-courant avec la temporalité du temps long. Finalement, faire quelque chose de ses mains, ça s'inscrit dans le temps long. Et il faut absolument respecter et même valoriser les gens qui ont choisi cette temporalité. Après, ça ne veut pas dire que ces acteurs ne peuvent pas être accompagnés sur leurs outils digitaux. L'Institut national des métiers d'art fait ça très bien d'ailleurs en proposant des formations. Mais il ne faut pas vouloir faire du tout numérique, je pense. Ensuite, il y a la question de la transmission. Je suis vraiment convaincue que rien ne remplace le temps où on va travailler la matière, où on va expérimenter la matière. Mais moi, je trouve ça aberrant qu'on propose aux jeunes d'être sensibilisés à ces métiers-là à travers la réalité augmentée et la vidéo à 360 degrés. C'est pas comme ça. Enfin, on peut faire entrer les jeunes dans les entreprises, dans les usines, d'ailleurs.
Mais c'est peut-être aussi pour les séduire, non, justement, parce qu'on se dit, la jeune génération, tout de suite, on va leur parler de réalité augmentée, ils vont adorer.
Non, je suis pas sûre. Je pense que d'ailleurs, les jeunes, on les bombarde tellement tout le temps d'images qu'il y a un moment, il faut aussi les reconnecter à la matière. Et d'ailleurs... Il y a le tourisme du savoir-faire qui fait ça très bien. Je pense notamment à Entreprises et Découvertes qui sont pionniers en la matière, qui permettent aussi aux jeunes d'aller dans les industries, dans les usines, dans les manufactures, pour finalement découvrir ces métiers, échanger avec des salariés, parce que rien ne remplace une information incarnée.
Oui, et ce que vous dites, c'est que les entreprises aussi ont leur rôle à jouer, finalement.
Oui,
dans ça. Là, on a parlé de l'éducation nationale et on sait bien qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est un vrai chantier. Mais les entreprises ont leur rôle à jouer aussi.
Oui. Alors, les nouvelles technologies peuvent optimiser, accompagner, soulager, et ça, c'est très bien. Mais il ne faut pas forcément non plus en mettre partout, je crois, parce que ça ne remplace pas le fait de faire. Et le podcast est un outil digital merveilleux. Il y a plusieurs acteurs dans le monde de l'artisanat qui faisaient très bien. Je pense à Raphaël Lebout avec The Craft Project autour des métiers d'art. C'est un outil, mais il faut que ça puisse permettre aux jeunes de pousser les portes des ateliers pour y aller. Mais il ne faut pas vouloir absolument changer les mentalités juste grâce au numérique. Il faut recréer du lien. Et c'est ça dont a besoin notre société, je pense.
Et c'est ce que vous faites aussi. Alors, Guillaume Loiseau, qu'est-ce que vous inspire le témoignage de Gabrielle Légeret? Je vous voyais l'écouter très, très attentivement.
Bah, je pense que ce que vous faites, c'est un acte profondément politique, en fait. Vous en parliez toutes les deux en début de conversation, au sens évidemment noble du terme. Parce que vous êtes en train de faire remonter à la surface quelque chose qu'on avait enfoui et laissé oublier. Et c'est un peu ce qui se passe aussi finalement sur la biodiversité et tout un tas d'autres sujets. Vous venez pas de créer une nouvelle forme d'intelligence où on se rend compte que tout d'un coup il y a ce qu'on appelle les savoir-faire qui est une découverte ou une nouveauté ou une innovation. On l'a tous rangé, enfin on nous a conformé. Ces 30 dernières années vers quelque chose qu'il a rangé et enfoui quelque part, et là vous le faites remonter à la surface par cette démarche de qui consiste à créer des formes d'ambassadeurs, et vous êtes une ambassadrice en fait de ces sujets. Et ce que je trouve intéressant, c'est cette dualité en fait où vous expliquez bien l'importance de la puissance du digital pour toucher beaucoup de monde, mais que rien ne remplace l'incarnation et le fait d'aller voir et de donner aux gens la possibilité de faire. Voilà, ce qui est bien plus fort, en fait, que distribuer des campagnes d'attractivité des métiers d'une manière générale. Je crois que ça fait 40 ans qu'on le fait. Et soyons humbles et modestes pour reconnaître que ça n'a pas été tellement efficace. Donc il faut changer les regards, changer l'image. Il faut lutter contre les préjugés de toute la société et de certains enseignants qui disent aux jeunes tu es mauvais, j'ai quelque chose pour toi, c'est ça, mais je oublie surtout de te dire que c'est une voie de garage.
Si on regarde vraiment ça d'ailleurs, en fait finalement on n'a même pas envoyé les jeunes là où il y a du travail.
Ouais.
On n'a plus envoyé les jeunes dans les métiers manuels, enfin dans les métiers de l'artisanat. On les a envoyés dans des filières techniques autour de la logistique, etc. Mais beaucoup sont au chômage. Et en fait, on a même plus envoyé les jeunes vers ce dont on a parlé, l'artisanat, notamment parce que beaucoup de formations ont fermé et qu'en fait, la majorité de ces entreprises, elles forment en interne. Vous allez dans une fonderie de bronze à Château-Renaud, en Indre-et-Loire, une formation de fondeur, il n'y en a plus. Et en fait, du coup, c'est de la reconversion. Il y a notamment un marin-pompier qui ne peut plus être marin-pompier parce qu'il a passé l'âge.
Mmh. Et ce qu'on voit, des gens qui se reconvertissent dans ces métiers-là, mais après avoir eu une première vie. Donc, ça veut dire que les plus jeunes, ils n'arrivent pas nécessairement dans ces métiers-là.
Et en plus, ces personnes se reconvertissent parce qu'elles ont eu un grand-père, qui était artisan.
Donc ils connaissent.
Et du coup, c'est un petit peu la Madeleine de Proust. Mmh. Mais la jeune génération qui arrive n'a pas eu ça. Donc, et je ne suis pas sûre qu'elle aura envie de se reconvertir à 40 ans. Donc il faut absolument activer d'autres leviers.
Après, je trouve que finalement, pour prendre un champ lexical qui nous a tous un peu ennuyés il y a quelques semaines de grand remplacement, le seul grand remplacement qui a existé, c'est celui que vous abordez, c'est-à-dire le mirage en fait, de la technologie et du monde serviciel, voire asservi, qui a remplacé une bonne partie, pas tout, mais de ce monde des savoir-faire, du geste et pas seulement. Parce que le geste, en fait, vous parliez des mains, évidemment c'est les mains, parce que c'est la représentation en physique, en fait, la plus concrète. Mais ces mains, en fait, c'est pas juste un mouvement, ces mains, elles créent. Donc c'est une démarche, en fait, qui est profondément animée par un sentiment de créativité.
Et
effectivement,
une réflexion
juste pour les gens qui font des vitraux ou des choses qui relève d'une très grande démarche artistique. Même quand on fait une menuiserie, une porte qui, une fois qu'on la met dans son usage, semble tout à fait banale, parce qu'on lui demande de s'ouvrir et de se fermer, c'est quelque chose, en fait, qui relève de la créativité.
Et même un électricien.
Et même un électricien.
Refaire l'électricité d'une vieille longère, c'est... Faut vraiment avoir la tête sur les épaules.
Et puis les artisans qui ont ces métiers, évidemment, ils ont cette agilité, cette forme d'intelligence qui consiste à créer des choses avec leurs mains. Mais ils ont aussi plein d'autres compétences dont on parle pas, parce qu'en fait, on les voit plus. Un artisan, il a une autre compétence qui est quelque part dans une forme d'académie aussi, enfin une forme de compétence académique. Si c'est un bon artisan, il sait s'organiser. Et ça, c'est une vraie compétence. Si c'est un bon artisan, il sait travailler avec les autres. Et ça, c'est une compétence extrêmement moderne. Si c'est un bon artisan aussi, il travaille sa relation client. Voilà. Donc en fait, il y a plein de compétences quand on est un bon artisan et qu'on réussit. Et pas juste cette aptitude, on a l'impression qu'on en a hérité, que c'est un peu un don de la nature pour certains, parce qu'en fait, moi, à titre personnel, je ne sais pas faire grand-chose avec mes mains. Et j'ai tendance à penser que j'ai hérité de ça, et de cette incapacité. En fait, c'est pas le cas. Il y a plein d'autres sujets. Donc franchement... je vais pas jouer le porte-parole des auditeurs de Bâti Radio, donc moi je voudrais vous dire merci, et je suis sûr qu'ils se rejoignent derrière moi, parce que ce que vous faites est extrêmement courageux et audacieux, et c'est pour ça que je voulais absolument que vous soyez là ce matin, et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Au sens noble du terme, il faudrait vous cloner, parce que en fait tout le pays en a besoin. Alors effectivement, comme le disait Nathalie, je me sens plus concerné et pleinement investi parce que j'ai pas le temps de m'occuper d'autres secteurs, puisque ma mission principale, c'est le secteur du BTP que j'essaye de comprendre et de défendre. Mais vous le faites pour tous les secteurs, donc c'est formidable. Donc franchement, bravo pour cette démarche. Et surtout, la façon de te raconter cette histoire, en fait, hein, qui est le contraire de la machine marketing qui sert à rien, quoi.
Et alors, bon, si on pourrait dire en conclusion, et vous en avez parlé, hein, l'éducation nationale a un rôle fort à jouer, vous aimeriez que ça soit dans les manuels scolaires, faut arrêter, hein, faut le dire.
Mais
que
même pas dans les manuels, dans les
formations, enfin dans les programmes, voilà.
Oui, je pense que d'une part, il faut apprendre à décloisonner les matières. Les jeunes en ont besoin et les savoir-faire peuvent le faire. Quand vous allez avec une Doreuse à la feuille qui explique que dans son travail, elle utilise les mathématiques, la géométrique, la physique-chimie et l'histoire de l'art, ça permet de faire passer des messages assez intéressants aux enfants. Et si on pouvait intégrer ça dès la primaire, je trouverais ça formidable. Mais l'éducation nationale a vraiment une grosse responsabilité d'avoir envoyé, de s'être fixé comme objectif 80% de réussite d'une classe d'âge au baccalauréat. Nous, notre rêve chez Delors dans les mains, ce serait qu'il y ait vraiment un parcours intégré au cursus du jeune avec plusieurs temps forts, comme le fait d'ailleurs Manufacto, une association sous l'égide de Hermès, comme le fait aussi l'outil en main qui met en relation des artisans retraités avec des jeunes dans des anciens ateliers. Il faut mettre ça dans les écoles. Il faut montrer qu'il y a une autre forme d'intelligence et qu'elle est tout aussi incroyable et prestigieuse que d'aller en école de commerce. Et puis, pardon, mais vu les enjeux qu'on est en train de traverser, on ne peut plus envoyer tous nos jeunes avec comme boussole le PIB et la croissance. Ça n'a plus de sens. Il faut vraiment tendre vers la sobriété. Les métiers manuels, c'est un formidable levier pour ça, mais on ne le dit pas assez.
Eh ben bravo en tout cas, et merci parce que vraiment vous étiez un grand témoin avec des entre guillemets des messages forts mais qui sont pleins de bon sens, et merci beaucoup Gabrielle Légeret, la fondatrice de L'Or dans les mains, d'être venue ce matin dans le rendez-vous du Mondial du Bâtiment, et merci à Guillaume Loiseau, donc directeur du Mondial du Bâtiment, un pile poil dans 4 mois, du 3 au 6 octobre. Alors un mot du programme, hein, parce que le programme est toujours chargé, hein, dans ce rendez-vous du Mondial du Bâtiment, et dans un instant avec le grand dossier, mais on va rester dans cette thématique parce qu'on va se demander comment les grands défis de la transition écologique et numérique vont permettre de rendre les métiers plus attractifs. Dans la séquence rénovation énergétique, on va zoomer sur la surélévation, qui est vraiment aussi un enjeu majeur. Finalement, on va éviter de construire plus, on peut surélever. On va décrypter la réglementation avec les directives européennes pour les équipements. Dans les métiers d'avenir, on va parler d'un projet Mayada, qui est développé par le CFA BTP du Gard. Vous verrez, on engage les jeunes aussi dans le bâtiment de demain. Donc c'est un gros projet. Dans la séquence améliorer nos lieux de vie, on va détailler une nouvelle enquête menée avec Ipsos sur les propriétaires et là encore les enjeux de la rénovation. Toujours la construction 4.0 et on va revenir sur le bois. On en parlait, la construction bois, parce que c'est du hors-site. Et puis c'est important d'aller faire un tour dans la salle de bain. Récemment, il y a eu le palmarès des salles de bain remarquables 2022 et on va le détailler dans la séquence tendance et design. On se retrouve donc dans un court instant pour le grand dossier.
Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Le grand témoin, un entretien à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.